Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien, Vers d'autres cieux. Tout de suite, donc, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Olivier Courage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien orthopédique et vous êtes aussi président de la commission médicale d'établissement à l'hôpital privé de l'Estuaire, au Havre, plus connu sous le nom de HPE. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le quotidien aujourd'hui à l'HPE avec Covid-19?
Ben, le quotidien à HPE, il a été absolument bouleversé par cette crise qui était inattendue, puisque dès le début de la crise, on a eu pour consigne d'arrêter toute l'activité programmée de l'établissement, les interventions non urgentes, les interventions qui ne concernaient pas des interventions qui devaient être faites comme la cancérologie. Et donc, on a une activité qui est quasiment passée à zéro. On garde une activité pour les urgences, alors les fractures, les urgences viscérales, les urgences médicales aussi, bien sûr. Et puis, il y a eu l'arrivée de ces patients atteints du virus, du Covid. Et donc, on a été là aussi bouleversés. Il a fallu organiser les choses, faire séparer les secteurs, notamment au niveau des urgences, mais aussi de l'hospitalisation, pour éviter les risques de propagation du virus. Mais l'activité de la clinique est tout à fait inhabituelle. Ouais, tout à fait inhabituelle.
Oui, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe justement la prise en charge d'un malade qui est atteint du Covid-19 aujourd'hui dans votre établissement ?
Alors, il y a dans les patients atteints du Covid-19, il y a deux types de patients. C'est le patient qui a fait le 15, qui a présenté des signes et qui consulte aux urgences. Aux urgences, il y a un secteur séparé, un secteur dédié. Il sera prélevé. S'il a des signes de gravité, il est gardé dans une zone que l'on appelle la zone tampon, où on va attendre le résultat de ce prélèvement afin de décider s'il sera hospitalisé dans l'unité Covid, qui est une unité dédiée, qui est une unité avec des chambres séparées, avec des chambres où le personnel s'habille pour éviter toute contamination. Ça, c'est le premier cas de figure. Il y a des patients qui ne présentent pas de signes de gravité. On leur demande de rentrer à leur domicile, mais ils sont surveillés, puisqu'ils sont rappelés par téléphone par des médecins volontaires le lendemain de leur retour à domicile et à 6 jours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation de leur état. Et puis l'autre cas de figure, c'est le patient vient de la réanimation de l'hôpital Mono, Jacques Mono. On a établi une stratégie entre les deux établissements. Dans ce cas-là, c'est le médecin réanimateur de Mono qui est en contact avec nos médecins anesthésistes réanimateurs pour admettre le patient dans une unité de réanimation, elle aussi complètement séparée dans la clinique, qui est notre unité habituellement de suite pour les patients lourds, qui a été transformé en réanimation. Et dans ce cas-là, il est transféré directement de l'hôpital.
Alors, ce lien
Voilà, donc.
avec l'hôpital Monod que vous venez de mentionner, c'est quelque chose qui est remarquable.
Oui, franchement, je crois que c'est une belle collaboration entre l'établissement public-privé. C'est pas toujours naturel, mais là, dans cette situation de crise, bah, je pense que les hommes, les dirigeants à la fois de l'hôpital, le directeur de la clinique Stéphane Vallès, on a fait des réunions. C'est très vite, on s'est mis d'accord pour avoir cette collaboration. Et aujourd'hui, on peut presque considérer que c'est un service commun et que les lits sont certes à HPE, mais ils peuvent être considérés comme faisant partie d'un service commun. Et c'est vrai que cette collaboration publique-privée, ben, elle fait parfois défaut en temps, j'allais dire, en temps de paix. Et là, ça fait très plaisir à voir. Ouais, c'est... Puis je pense que personne n'aurait compris si on n'avait pas eu cette collaboration.
Tout à l'heure, docteur Courage, vous disiez que il y avait une zone tampon dans laquelle attendaient les patients concernant une éventuelle contamination au Covid. Ça dure combien de temps pour avoir les résultats?
Bon, les résultats, on les a assez rapidement, c'est 12 heures, quoi. 12 heures. Ouais. Et on dispose d'une trentaine de prélèvements par jour, parce que là aussi, il y a eu des tas de choses de raconter. On peut pas faire un dépistage de masse, mais les patients qui rentrent à la clinique avec des doutes, on a largement de quoi les prélever. Mais c'est pas une sérologie, c'est un prélèvement nasal qui nous dit simplement s'il y a du virus dans les fosses nasales.
Alors, à travers les propos que vous avez tenus précédemment, on peut rassurer les personnes qui souffrent d'autres pathologies concernant leur éventuelle venue dans votre établissement. Il n'y a pas de risque particulier de contamination en venant aux urgences, par exemple, de l'HPE pour une autre pathologie que le Covid-19.
Oui, je crois que ça, c'est le message commun d'ailleurs, hein. Il faut rassurer la population et on a quand même la surprise d'avoir une fréquentation des urgences qui est bien inférieure à l'habitude, ce qui prouve que certains patients, effectivement, doivent avoir une certaine crainte, ce qui peut se comprendre, mais faudrait pas que certaines pathologies évoluent défavorablement et qu'on se retrouve avec des cas qui auraient dû consulter. Donc, c'est un bon message de rassurer les patients pour aller consulter dans les différents services, oui, bien sûr.
Docteur Olivier Courage, comment est-ce que vous voyez les jours qui viennent là, notamment concernant l'évolution du coronavirus?
Je vais être très modeste, hein. Je vais pas vous dire que j'ai une vision précise des choses. Je crois qu'on a vu tout au long de cette crise que ceux qui avaient des certitudes, eh ben, ils se mettaient bien en défaut rapidement, et que au contraire, je pense que faut être très prudent. On a quand même un peu l'impression que la grosse première vague est en train de passer. On a l'impression que la Normandie a pris les mesures de confinement au bon moment. Avant qu'il y ait trop de personnes infestées par le virus. Et donc, l'effet du confinement a été très bon pour notre région. Alors après, savoir si il va y avoir une amélioration, si ça va décroître. On a un peu le sentiment que ça commence à décroître. Faut être très prudent. On parle aussi de deuxième vague.
Oui, c'est ça,
Est-ce
c'est
que
qu'on
ce
mentionne aussi
serait...
dans les médias, il revient souvent la question d'une deuxième vague. Comment est-ce qu'il faudrait comprendre une deuxième vague, docteur Courage?
Alors là encore, je suis pas un spécialiste en virologie. Je sais humblement que je vous donne des explications, mais il y a deux façons peut-être de comprendre cette deuxième vague. C'est le confinement, c'est en quelque sorte une salle d'attente où on met les patients pour pas qu'ils soient infectés en masse en même temps. Mais il y a dans les personnes confinées, il y a des gens qui vont pas avoir été mis en contact avec le virus, qui vont sortir et risquent d'être atteints. Et donc ça peut expliquer une deuxième vague, ou alors le virus, un peu comme ce qu'on a l'impression en Chine, qui revient une deuxième fois, sans avoir muté, mais qui revient une deuxième fois sur une deuxième zone de deuxième phase de pandémie. Mais là encore, je suis pas tout à fait spécialiste de la question, même si on a tous fait de gros progrès dans le domaine.
Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même un virus nouveau et que tout le monde y va plus ou moins à tâtons là en ce moment.
Oui, je crois que l'humilité, c'est le mot actuel, parce que pour comprendre, par exemple, le virus du sida, tout le monde a bien vu qu'il avait fallu quasiment une dizaine d'années. Là, on va à toute vitesse, les chercheurs de tout le monde entier font tous leurs efforts, mais on va pas en 15 jours à venir résoudre les problèmes sur un virus. Oui, le vaccin va pas être trouvé tout de suite. Les traitements antiviraux, on sait bien que c'est plus que limité. Donc, il faut accepter les découvertes qui vont se faire en leur temps, et il faut respecter les équipes qui cherchent et leur donner ce temps qui est nécessaire à la compréhension d'un tel virus. Hein.
Docteur Olivier Courage, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et aussi pour votre engagement au quotidien dans cette lutte contre le coronavirus. Je rappelle que vous êtes président de la commission médicale d'établissement à l'hôpital privé de l'Estuaire du Havre. Merci beaucoup.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77193 Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Top Cuisine. Nous serons d'ailleurs en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, et nous terminerons ensuite avec le pasteur Pierre Péchou pour son émission Vers d'autres cieux.
Top Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé. Avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, présentée par Oscar Miani.
Bienvenue à l'écoute de l'émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes paysanne cuisinière, éducatrice de santé, vous êtes auteur de livres aussi, et notamment celui qui s'intitule « Gastronomie végétale » aux éditions Vie et Santé. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de cuisine, et il s'agit plutôt d'une entrée, ce sont des betteraves au réfort, Cécile, c'est ce que vous nous proposez.
Oui.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que le réfort exactement?
Oui, le réfort, c'est un condiment, une racine plutôt, qui fait partie de la famille des crucifères, comme le navet et le radis. La racine de réfort a des composés soufrés qui donc font ce goût si particulier et qui aussi qui est montonné, un peu comme la moutarde. Le réfort, vraiment, est très savoureux et est surtout connu dans les pays de l'Est, en Allemagne.
Vous pouvez nous parler de la betterave aussi et nous dire qu'est-ce qu'elle apporte dans notre alimentation?
La betterave contient surtout du cobalt, qui sert à la formation des globules rouges. Donc, c'est important pour être en bonne santé et avoir cette capacité d'avoir de l'oxygène.
Donc ça a une action sur le sang en particulier, voilà. C'est ça. Et alors la betterave, on peut la consommer de plusieurs manières, je crois. Hein. On peut la consommer cuite, crue.
Oui, aussi on peut la consommer en jus, hein, avec parcimonie, parce que c'est un jus assez fort et âpre. On peut aussi l'utiliser râpée, bien sûr. Ouais,
plutôt quand elle est crue, non?
Oui, voilà. Mmh. On peut aussi la râper quand elle est cuite.
Ah,
ça fait un plat original. Mmh. En présentation, ça donne une consistance différente que si on la mixe.
Pour avoir une betterave crue, on trouve ça directement chez son producteur local?
Voilà, sur le marché ou bien au magasin, ou bien si vous avez un abonnement dans une AMAP, je pense que vous aurez ça dans votre panier.
Parce qu'en général, on les trouve plutôt cuites. Mais quand on en a des crues, on peut aussi les faire cuire soi-même, je crois.
Oui, oui, bien sûr.
Mais c'est plus compliqué?
Oui, parce que ça a la réputation de cuire longtemps. On peut les cuire à l'eau, c'est assez long. Moi, je propose aussi de les cuire au four.
Au four?
Oui, dans un plat fermé, avec un peu d'eau. Et la betterave est un peu prisonnière dans un vase clos. Et elle est très bonne aussi comme ça. Et ça cuit un petit peu plus vite.
Et je crois, Cécile, qu'on peut consommer les feuilles aussi de la betterave.
Oui, les jeunes pousses se mangent et en plus, visuellement, elles sont très belles puisque vous avez des nervures rouges qui passent dans le verre et c'est tout à fait intéressant au niveau visuel.
Ça se mange en salade, tout simplement?
Voilà, avec un mesclum.
Alors, maintenant qu'on sait à peu près tout sur la betterave, ou presque, vous nous proposez donc une entrée de betterave au réfort.
Ben justement, là, les betteraves cuites vont être râpées, mélangées à des échalotes coupées finement, avec de l'huile d'olive bien mélangée. Et ensuite, j'incorpore du réfort qui va être moulu, du réfort frais, qui va être moulu avec du gingembre. Et je lui propose de mettre ça dans des petites verrines et de les mettre sur la table et de servir frais avec un peu de ciboulette.
Et alors, le réfort frais, où est-ce qu'on le trouve?
C'est vrai que c'est peut-être plus rare de le trouver sur nos marchés, quoique ça commence maintenant, puisqu'on trouve maintenant des tubercules de curcuma et de gingembre. Donc, je pense qu'on peut aussi trouver du réfort. Mais sinon, vous pouvez le cultiver en pot sur une terrasse. Je pense que ça vient assez bien. C'est pas difficile du tout. Il suffit d'avoir un petit tronçon de réfort, un petit morceau, attendre une année. On la récolte la deuxième année. C'est très puissant au niveau des arômes, hein, quand on épluche et qu'il faut un robot bien puissant aussi parce que c'est très dur.
L'avantage de cette recette, de cette entrée, c'est qu'elle est très rapide à préparer. Hein.
Voilà, vous avez vu, c'est très simple.
Et pour les gens qui suivent un régime particulier, sans gluten ou végétalien, eh bien, tout est parfait pour eux.
Voilà.
Merci beaucoup Cécile, c'était Top Cuisine, nous étions en compagnie de Cécile Hermeline, auteur du livre Gastronomie végétale, que vous pouvez trouver aux éditions Vie et Santé.
C'était Top Cuisine avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, présentée par Oscar Miani et en partenariat avec Hop Channel France.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la radio mondiale adventiste. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bienvenue à ce micro.
Bonjour Oscar.
Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier et que vous nous rejoignez ici régulièrement pour partager avec nous des textes issus de la Bible. Aujourd'hui, quel texte avez-vous choisi pour nous apporter un message d'encouragement, Pierre?
Alors je vous propose une histoire qui se trouve dans le livre des Actes, Et j'en profite peut-être pour replacer ce livre dans la Bible. Il suit directement les quatre évangiles. Les quatre évangiles nous parlent du ministère de Jésus sur la terre, ses 3 ans et demi de ministère, qui se finit par la croix, sa mort et sa résurrection. Et tout de suite après donc les quatre évangiles, le livre des Actes qui nous raconte l'histoire de la naissance de l'Église. Donc nous sommes dans un temps où Jésus est monté au ciel, c'est le premier chapitre du livre des Actes, et où l'Église chrétienne va se développer et croître.
Et alors, aujourd'hui, le texte en question nous parlera de quoi, de qui ?
Alors de qui surtout ? D'un personnage très célèbre, Paul, peut-être le plus grand évangéliste qui a parcouru le monde connu de l'époque pour partager l'Évangile, et plus particulièrement sa rencontre avec Jésus. Alors, je viens de vous dire que Jésus était monté au ciel, mais il va venir rencontrer Paul sur le chemin de Damas. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que Paul fait ici.
Et alors donc, oui, comment a lieu cette rencontre entre Paul et un Jésus qui n'est pas là ?
Alors, je parlais d'un personnage célèbre de Paul, mais on le connaît comme un célèbre chrétien. Mais avant d'être chrétien, il est d'origine juive, c'est un grand rabbin, très fidèle à la foi de ses pères, et qui s'est donné pour mission de combattre cette nouvelle partie de la synagogue, cette nouvelle secte qu'on appellera après les chrétiens. Quand Paul nous raconte son histoire, sa conversion, il commence comme ça. Et là, je vous lis un texte qui est la fin du verset 11, qui dit, dans Actes au chapitre 26, « Dans l'excès de ma fureur contre les chrétiens, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. »
Donc, il n'est pas là pour rigoler.
C'est le moins qu'on puisse dire. Paul est en chemin pour Damas, avec des compagnons. Il a en sa possession un mandat des autorités juives qui lui permettra d'arrêter des chrétiens, de les faire emprisonner et peut-être même de les amener à la mort.
Et alors, il va se passer quelque chose dans ce chemin, puisque il va rencontrer Jésus, vous nous avez dit.
Dans une apparition, nous sommes à l'heure de midi, et cette apparition est très spectaculaire, parce que Paul nous relate que Jésus apparaît dans une lumière plus brillante que la lumière du soleil.
Donc il s'agit une nouvelle fois d'une intervention surnaturelle.
Absolument, on peut parler de miracle en quelque sorte.
Oui.
Et c'est tellement fort que Paul ne se pose pas la question, il sait bien qu'il est en présence de Dieu. Il va quand même vouloir avoir des précisions. Il va dire « Qui es-tu ?» Voilà la réponse qu'il va entendre. « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. » Mais ce qui est intéressant à ce moment de l'histoire, c'est nous de savoir pourquoi Jésus vient. Est-ce simplement pour apprendre à Pierre qu'il le persécute ? Et est-ce que la venue de Dieu à travers Jésus dans la vie de Paul est une venue, une révélation pour condamner Paul, parce qu'il il effectue des actes répréhensibles ? Est-ce une venue pour le condamner ou pour autre chose ? Eh bien Oscar, je vous invite à être attentif à la suite des paroles de Jésus. Nous venons de dire et de rappeler que Jésus a dit « Je suis celui que toi tu persécutes ». Et tout de suite après, Jésus rajoute « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds ».
Et alors qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire que Jésus invite Paul à repartir vers une nouvelle vie, vers une nouvelle mission ?
Lorsque Jésus dit à Paul « Lève-toi », il faut savoir que ce verbe est employé ailleurs dans la Bible comme synonyme de la résurrection. Donc, vous l'avez bien dit, Jésus invite Paul à une nouvelle vie. Il lui dit ensuite « Tiens-toi sur tes pieds ». Et cet ordre, cette invitation de Jésus est un symbole pour rétablir Paul dans sa dignité d'homme. Sois debout. Tu as fait des erreurs, elles sont graves. Tu as persécuté des chrétiens, tu as même validé la mort de certains. Mais je ne vais pas m'arrêter sur tes fautes et je t'invite à être debout. Et moi, j'ai pour toi un destin, j'ai pour toi un avenir, une espérance. C'est la suite des paroles de Jésus qui dit à Pierre, je te destine à être maintenant serviteur et témoin. Ce sont des paroles d'encouragement. Et pour nous, Oscar, pour nos auditeurs, ce sont des paroles qui nous encouragent à ne pas rester sur nos échecs, sur nos erreurs lorsque nous en prenons conscience, mais à savoir que Dieu nous invite à une nouvelle vie, à nous rétablir dans notre dignité d'être humain et avoir l'assurance que pour nous, Dieu à nouveau a un avenir, une espérance.
au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.
Thank you.